Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Élu le 3 novembre 2020, Joe Biden prenait ses fonctions il y a bientôt un an à la Maison-Blanche, le 20 janvier 2021. Se présentant en rupture avec la politique de Donald Trump sur tous les plans, Joe Biden souhaitait se lancer dans une politique active et modernisatrice. Il avait promis le retour de la compétence et l'apaisement des divisions partisanes. En ce début d'année, les Américains restent plus divisés que jamais et les États-Unis toujours aussi déchirés. Le président démocrate ne recueille qu'à peine plus de 40% de soutien et les Américains sont inquiets au sujet de la stabilité de leur démocratie. Plus de 80% estiment que le système a besoin de changements importants ou d'une réforme complète. Regard sur la présidence Biden avec nos invités. Suzanne Perry en studio, professeure en sciences politiques et droit international à l'Université américaine de Paris, bonjour.
Bonjour.
Philippe Golu, professeur de relations internationales également à l'Université américaine de Paris, bonjour.
Bonjour.
Et par téléphone, Christophe Leboucher, journaliste indépendant, co-auteur avec Clément Perrault des Illusions perdues de l'Amérique démocrate aux éditions Vendémiaire, bonjour.
Bonjour.
Suzanne Perry, Philippe Golu, on commence avec vous en studio. Qu'est-ce qui a changé depuis un an aux États-Unis ?
Alors, je note d'abord le différentiel très important entre le vote populaire massif en faveur de Joe Biden lors des dernières élections présidentielles et la très courte majorité politique qui est la sienne, qui conduit à une instabilité permanente, à la fois institutionnelle mais aussi politique dans le pays. Les clivages n'ont bien sûr pas disparu. Une élection présidentielle ne fait pas ça. Les clivages ont toujours été sous-jacent dans la société américaine. Une certaine violence dans la société américaine a toujours été sous-jacente aussi. Le fait que la légitimité réelle, populaire de ce président ne corresponde pas au niveau institutionnel à une majorité stable au niveau politique conduit à un blocage politique que l'on voit aujourd'hui aux États-Unis et qui va sans doute s'aggraver lors des prochaines élections législatives de mid-term en novembre prochain. Donc on est dans une situation de blocage politique et de lutte politique de plus en plus intense autour de distinctions politiques et de luttes idéologiques qui sont celles que l'on retrouve depuis des dizaines d'années aux États-Unis et qui aujourd'hui se radicalise et se radicalise d'autant plus que la présidence Biden sera sans doute une présidence de 4 ans et non pas de 8 ans étant donné l'âge du président. Donc on est devant des perspectives d'une très grande incertitude politique et sociale aux États-Unis.
Joe Biden qui a 78 ans aujourd'hui. Alors Philippe Golub le dit, Suzanne Perry, blocage politique, lutte politique, radicalisation. Est-ce que, pour commencer, on peut dire que finalement, l'affaire du Capitole qui a précédé de quelques jours l'entrée en fonction de Joe Biden, on est là 6 janvier 2021 et l'entrée à la Maison-Blanche de Joe Biden le 20 janvier, est-ce que cette crise du Capitole, sur laquelle on pensait tout de même que les Américains allaient se rassembler, en fait ça n'est pas le cas du tout, est-ce que cette crise a été mal gérée ?
Je crois que c'était mal géré des deux côtés, en fin de compte. D'abord, les républicains, la plupart des républicains au Congrès n'ont jamais pensé que Trump insisterait à ce point de rallier ses troupes et de menacer le comptage des voix. Et ça se voit parce que le vice-président Mike Pence, par exemple, a refusé de coopérer avec le complot, si vous voulez, de Trump pour bloquer. On parle d'un coup d'État, ça je n'en sais rien, mais de bloquer le comptage des votes. Donc d'abord, les républicains étaient, la plupart, ils étaient pris de court. Mais parce que c'est une partie, en fin de compte, minoritaire au niveau du vote populaire, ils sont très soudés et très disciplinés. Et donc ils font bloc derrière Trump pour des raisons qui me semblent très, des raisons à court terme. Parce que la menace pour la démocratie est bien réelle. Les démocrates, de leur côté, ils ont pris leur temps pour enquêter. Il y a des divisions entre les progressistes et les centristes au sein du camp démocrate qui sont très importantes. C'est quasiment deux partis. En Europe, ça serait deux parties différentes. Aux États-Unis, c'est une seule partie. Et donc, des deux côtés, on a tardé à réagir. On réagit maintenant, une année plus tard. On a des difficultés à rallier un soutien nécessaire au Congrès pour continuer avec cette enquête et déterminer l'étendue de la responsabilité de l'ancien président Trump.
Alors, on peut dire et rappeler que la procédure d'impeachment lancée par les démocrates n'a pas abouti en son temps et que depuis, vous le dites, Suzanne Perry, l'affaire est devenue complètement partisane. Alors, les républicains se sont opposés à la création d'une commission d'enquête indépendante et les démocrates ont dû se contenter d'une commission parlementaire composée de 9 membres, 7 démocrates et 2 républicains. Christophe Le Boucher, c'est une certaine déception, cette commission parlementaire et non pas une commission d'enquête indépendante. Et tout cela, évidemment, rajoute à la radicalisation et à la désunion de la société américaine.
Oui, les républicains ont agi un peu par opportunisme politique, comme Philippe le disait. Et les deux seuls qui participent, en fait, avaient voté pour la destitution de Trump après le 6 janvier. Donc, ils sont restés sur leur ligne, mais ils ne représentent pas d'électorat réel ou sont assez marginalisés au sein du parti. Du coup, la commission, aux yeux de l'électorat républicain, de la majorité de cet électorat, n'est pas crédible ou, disons, est trop partisane pour être prise au sérieux. Donc ça crée effectivement une division et deux interprétations différentes, y compris de la signification d'événements du 6 janvier. Si on regarde comment les médias conservateurs vont traiter ça par rapport aux médias plus progressistes ou proches du Parti démocrate. Donc du coup, il y a un point de contention politique, y compris sur cet événement qui pourtant reste assez factuel au départ et aurait pu à la fois ramener le Parti républicain à une sorte de modération ou de raison, après avoir essayé d'apaiser Trump ou d'aller dans son sens pendant la période de transition, et en même temps aurait pu rassembler un peu les Américains, et ça n'a pas été le cas. Mais on voit aussi du côté du monde des affaires, il y a d'abord eu une sorte de recul ou presque d'abandon de la part des grosses entreprises et du monde des affaires vis-à-vis du Parti républicain suite à cet événement, mais rapidement, la plupart des entreprises et du monde des affaires est revenu vers le Parti républicain, malgré leur complicité apparente dans cette tentative de subversion des élections et ce qui en a suivi.
Alors, on va bien sûr parler des blocages politiques auxquels Joe Biden fait face aujourd'hui. Je reste un tout petit peu sur l'affaire du Capitole. Après cette prise d'assaut, on avait vraiment pensé que l'Amérique pourrait trouver un commun accord sur l'inacceptable de cet acte. Évidemment, la réalité est tout à fait autre. Les Américains ne voient pas la même chose, Philippe Golub, hein, selon...
Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut souligner. D'abord, il faut en finir avec une illusion, l'illusion que la politique est une affaire de discussion polie entre interlocuteurs qui, dans une démocratie apaisée, discutent rationnellement sur des agendas rationnels de gouvernance nationale. Ce n'est pas vrai ici en France, ce n'est pas vrai aux États-Unis. La politique est une lutte pour le pouvoir. C'est ce que nous apprenons en sciences politiques, n'est-ce pas, entre autres. C'est une lutte pour le pouvoir et selon un philosophe français, la politique serait la guerre par d'autres moyens. Hein. Je cite Foucault. Mais la démocratie américaine n'a jamais été apaisée. Elle l'est moins encore aujourd'hui qu'elle l'était auparavant, mais elle ne l'a jamais été. Pensez à Nixon, à la période de Nixon. Pensez aux grandes émeutes, aux grandes violences politiques des années 1960 aux États-Unis, dans toutes les grandes agglomérations des États-Unis. Pensez à la lutte très violente des droits civiques aux États-Unis, où des centaines de personnes sont mortes dans la lutte pour les droits civiques aux États-Unis.
Mais là, c'était sur des sujets très importants, alors qu'il s'agit de...
Mais les sujets aujourd'hui sont des sujets très importants. Les sujets aujourd'hui sont des sujets d'inégalité sociale très vaste, très importante, les plus importants depuis les années 20, comme l'ont montré les recherches de Piketty 16 et d'autres. Les disparités raciales qui perdurent, la violence raciste qui perdure aux États-Unis, le problème de la gouvernance nationale, journal de la crédibilité politique depuis Trump. Trump a décrédibilisé la parole politique de façon très importante. Donc on est dans une période de crise qui, certains aux États-Unis aujourd'hui, je pense avec exagération, parlent d'une nouvelle situation de fait de guerre civile, ou en tout cas des clivages suffisamment puissants au niveau idéologique et politique pour distinguer des groupements antagonistes totalement incapables de dialoguer, même dans un sens politique un peu confrontationnel habituel. Et ce n'est pas simplement un problème américain, c'est un problème plus vaste. On a vu les violences en France depuis quelques années. C'est un problème plus vaste, mais aux États-Unis, les États-Unis exemplifient en quelque sorte ce virage de nos démocraties vers quelque chose de différent, qui remet en cause l'illusion, comme je l'ai dit au début de ces remarques, l'illusion d'une démocratie apaisée. C'était une illusion, en fait, une voie libérale ascendante vers des solutions pacifiées. Donc le problème pour Biden aujourd'hui, et pour les démocrates qui sont divisés, comme Susan l'a dit très justement, le problème pour Biden, c'est de créer un agenda, non pas de consensus, mais de confrontation politique, qui soude et crée une nouvelle majorité démocrate.
Agenda de confrontation politique.
Oui, de confrontation, non pas de dialogue pour essayer de rechercher un consensus avec l'opposition républicaine. Obama l'a tenté plusieurs fois. Obama croyait au consensus, croyait au dialogue, croyait à la possibilité de trouver des solutions communes avec les républicains. Et à chaque fois qu'il tendait la main, les loups de l'autre côté essayaient de lui manger le bras, n'est-ce pas ?
Alors, on a beaucoup reproché à Obama de ne pas avoir suffisamment communiqué, peut-être, sur ce qu'il faisait, que les contacts entre la Maison-Blanche et le Congrès n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils devaient être. On peut faire le même reproche à Biden, dont on dit beaucoup aussi que la communication n'est pas là. Il est peut-être, de fait, plus âgé que Barack Obama. Suzanne Berry.
Je crois qu'il communique, mais peut-être pas suffisamment. Donc d'abord, c'est quelqu'un avec une longue expérience au Congrès, donc au Sénat. Donc ça veut dire que lui, il a tous les contacts nécessaires. Il fait ce qu'il appelle le consensus par téléphone. Ça veut dire qu'il téléphone individuellement à Manchin, à d'autres, à Sinema, les sénateurs qui résistent à suivre leur parti. Donc, je dirais qu'il communique énormément, mais en arrière-scène. Et donc, devant, nous voyons en effet effectivement très peu d'engagement avec la politique qui vient de commencer en Géorgie cette semaine, avec une demande de soutien pour l'acte pour la liberté de vote, ce qui est peut-être pour moi l'acte la plus importante de sa présidence.
Alors, parlez-nous de cet acte de liberté de vote. Ça nous permet d'expliquer la politique des Républicains depuis un an, voire davantage, parce que ça s'est fait de façon antérieure à l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche.
Donc, c'est un acte qui est bloqué depuis mars. Il y avait deux actes qui étaient introduits au mois de mars pour élargir d'abord le champ de ceux qui sont éligibles à voter et surtout les règles, parce que les règles sont différentes dans chaque État. On a 50 réglementations différentes, ce qui est inouï pour un Européen, c'est très étonnant. Et donc, du coup, l'acte actuel, qui est le fruit d'un grand consensus entre la sénatrice Amy Klobuchar de Minnesota et Manchin et d'autres acteurs au Sénat, pour réduire l'acte au simple, une liste de réglementations qui rendent l'acte de vote plus juste partout aux États-Unis. Cet acte, pour que ça puisse être discuté au Sénat, il faut éviter le filibuster et donc le meneur au Sénat. Schumpeter vient de déclarer, il a trouvé, un caveat, une façon d'aller autour des réglementations pour qu'on puisse au moins discuter cette mouture au Sénat la semaine prochaine.
Filibuster, on peut le rappeler juste de petites secondes.
C'est parler sans fin pour qu'on puisse bloquer une discussion du contenu d'un acte de législation.
Alors, je voulais simplement préciser, c'est très important, cette lutte autour du droit du vote, c'est le résultat et le fruit d'un effort de blocage systématique
depuis Reagan
côté républicain, de réduire le vote afro-américain, en particulier aux États-Unis, en reconfigurant les districts dans lesquels les afro-américains votent. Donc créer ce que Susan Perry a dit très justement, c'est-à-dire restaurer une certaine égalité devant le droit de vote, est une priorité politique absolue pour le Parti démocrate s'ils veulent rester le parti qu'ils sont aujourd'hui et rester fidèles à leurs propres valeurs, parce qu'aujourd'hui, le droit de vote n'est pas égal aux États-Unis dans les différents États américains.
Et les républicains, précisément, donc, s'emploient à compliquer la tâche. Alors, quelles sont les chances pour que cette loi puisse passer, étant donné ce que vous avez souligné, Philippe Golub, le blocage politique auquel Joe Biden fait face au Congrès. Votre commentaire, Christophe Leboucher ?
Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, sur l'idée, on parlait de Biden qui ne parle pas assez. J'ai l'impression que, comme le disait Susan, qu'il parle suffisamment avec les élus démocrates et il a cette pratique du Congrès. Mais par contre, il parle beaucoup moins aux Américains. On a vu qu'il, par exemple, il a fait moitié moins de conférences de presse depuis qu'il est élu que Trump, et trois fois moins qu'Obama. Alors que Trump était habitué non seulement à parler souvent par les médias, mais aussi à donner des interviews presque tous les jours en sortant de la Maison-Blanche. Donc il avait cette capacité à donner l'impression quand même qu'il faisait quelque chose, qu'il s'occupait des problèmes, ou en tout cas qu'il était présent. Et du coup, ça permettait d'instrumentaliser certains dossiers ou de les mettre vraiment en avant. Alors que Biden a une parole beaucoup plus limitée. Donc typiquement sur le problème des droits de vote, c'est quelque chose qui aurait pu être beaucoup plus priorisé dans l'agenda politique et dans l'opinion publique si ça avait été si Biden avait souvent pris la parole par rapport à ça, plus qu'il l'a fait. Donc maintenant il arrive un peu tard dans ce combat, et on a vu que par exemple quand il allait en Géorgie, les activistes démocrates qui avaient fait beaucoup pour le faire élire ont boycotté son discours en disant que c'était trop tard et que c'était pas en Géorgie qu'il fallait qu'il aille, mais qu'il aille en Virginie occidentale et en Arizona pour mettre la pression sur les élus du Sénat démocrate qui bloquent pour l'instant cette législation. Donc ça c'est le deuxième point que je voulais commenter, c'est l'histoire du filibuster. En fait, ça, dans les faits, ça signifie que pour faire passer une loi, les démocrates qui ont 50 sénateurs, donc juste la plus courte majorité possible, ont besoin de 60 voix au Sénat. Donc, en théorie, ils ont besoin de 10 sénateurs républicains pour faire passer une loi significative. Et ce qu'ils essayent de faire maintenant, c'est de supprimer cette règle de filibuster pour les législations qui ont trait au droit de vote. Et pour l'instant, il y a au moins deux sénateurs démocrates qui bloquent, c'est Manchin de la Virginie occidentale et Kristen Sinema de l'Arizona. Et c'est là que va se jouer probablement l'avenir de cette loi, de cet effort législatif. Et ça, c'est quelque chose que le Parti démocrate a moyen de faire en théorie, mais en pratique, il y a les réalités politiques internes au Parti démocrate qui rentrent en jeu.
Alors, commentaire ici en studio, Philippe Golub et Susan Perry, on a une minute et demie avant la fin de cette première partie d'émission. Philippe Golub.
Encore une fois, la distance entre, d'un côté, le vote populaire très large au niveau présidentiel en faveur de Joe Biden lors des dernières élections présidentielles et la réalité du suffrage au niveau des deux chambres du Congrès suggère que le Parti démocrate aura les plus grandes difficultés dans les mois à venir à effectivement mettre en œuvre une politique substantielle de transformation comme le voulaient d'ailleurs à la fois les progressistes au sein du parti et Joe Biden lui-même lorsqu'ils sont rentrés en fonction. La grande difficulté étant aujourd'hui pour les démocrates qu'il y a au sein du Parti démocrate, c'est toute petite minorité de deux sénateurs, cette minorité infime qui bloque le processus législatif démocrate actuellement.
Dont M. Manchin de Virginie occidentale, dont on aura l'occasion peut-être de reparler. Susan Perry.
Alors, il n'est jamais trop tard pour rendre le vote égal et accessible à chaque Américain. Donc oui, il a un an de retard, mais il faut qu'il fonce. Le président Biden, c'est maintenant ou jamais.
Il y va de la démocratie américaine, on est bien d'accord.
Oui, peut-être.
On vous retrouve, Suzanne Perry, Philippe Golub et Christophe Leboucher, après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regarde sur les États-Unis un an après l'entrée en fonction de Joe Biden à la Maison-Blanche. Nous retrouvons nos invités, Suzanne Perry, professeure en sciences politiques et droit international à l'Université américaine de Paris, Philippe Golub, professeur de relations internationales également à l'Université américaine de Paris, et par téléphone, Christophe Leboucher, journaliste indépendant, co-auteur avec Clément Perrault, des illusions perdues de l'Amérique démocrate aux éditions Vendémiaire. La question du bilan de Joe Biden, on a évoqué dans la première partie de l'émission, le blocage politique auquel le président américain faisait face. Il y a tout de même un certain nombre de choses que l'on peut mettre dans le côté positif du bilan de Biden. Alors, une campagne vaccinale qui a été lancée sur les chapeaux de roue, on parle bien sûr de la Covid-19, un taux de chômage à 4,2% en novembre dernier contre 6,7% un an auparavant. Joe Biden peut également se targuer d'avoir fait adopter par le Congrès, où les démocrates ne comptent, on l'a dit, qu'une voix de majorité au Sénat, deux de ces trois gigantesques plans de relance publique d'investissement, une enveloppe de 1900 milliards de dollars votés dès mars dernier, soutien aux familles pour le Covid, rénovation des infrastructures vétustes, investissement dans l'Internet à haut débit et développement de la voiture électrique, et un deuxième plan plus volumineux, lui, volet social et climatique, c'est le Build Back Better qui prévoit l'école maternelle pour tous, amélioration de la couverture maladie et crédit d'impôt pour réduire les émissions à effet de serre. Christophe Leboucher, bien sûr, un bilan à mettre au crédit de Joe Biden malgré toutes les difficultés qui sont les siennes.
Oui, disons qu'il commençait en arrivant à la Maison-Blanche sur une bonne dynamique avec ce premier plan de relance vis-à-vis du Covid. Et puis il avait un discours assez en rupture de ce qui s'est fait jusqu'à présent du consensus néolibéral quand il dit qu'il faut augmenter les salaires, qu'il faut que les entreprises payent leur juste part d'impôts. Et il a un discours favorable aux syndicats, ce qui est quand même assez nouveau sur l'histoire récente des États-Unis. Mais en fait, ce volontarisme s'est heurté quand même au blocage après politique sur lesquels on reviendra sûrement. Mais il y a quand même quelque chose à mettre à son crédit. Il a permis, avec ce plan de relance, de réduire de moitié le taux de pauvreté infantile, avec cette mesure d'allocation familiale qui a malheureusement expiré début janvier, et les investissements sur les infrastructures qui avaient le soutien du monde des affaires et des syndicats patronaux, et donc qui ont été votés relativement facilement, mais du coup sans contenir les hausses d'impôts sur les entreprises et les grandes fortunes qui avaient été prévues au départ pour le financer. Donc on voit que c'est quand même un compromis en faveur des intérêts économiques et qui a pu du coup recueillir le soutien de certains élus républicains.
Commentaire, Philippe Golub.
Je pense que la grande ambition, comme Christophe Leboucher vient de le dire, Biden est arrivé au pouvoir avec une grande ambition de Rooseveltienne, en quelque sorte, de restauration de l'équité économique et sociale aux États-Unis. C'était clairement affiché dans son programme. Et il y avait là, bien sûr, on voyait bien à la fois l'influence, mais aussi l'influence des progressistes au sein du Parti démocrate, mais la convergence entre ces milieux progressistes et le corps central que représente Biden au sein du Parti démocrate. Donc la réalisation de la part de ce Parti démocrate transformé à ce moment-là, de la nécessité d'une transformation profonde de la société américaine pour restaurer l'équité économique et sociale et raciale. Cette ambition rooseveltienne n'a été mise en œuvre qu'en partie du fait des blocages politiques soulignés par les uns et les autres lors de notre discussion. Il y a quand même des réalisations, les 2000 milliards d'investissements dans les infrastructures. Reste le volet social et le volet fiscal qui vient d'être souligné, le volet fiscal que les républicains bloquent, qui est absolument essentiel aux États-Unis. Les statistiques les plus récentes montrent que les divergences de revenus et de patrimoine aux États-Unis s'aggravent de plus en plus, que les États-Unis aujourd'hui sont de fait une forme de société plutocratique, comme le dit Paul Krugman, le prix Nobel, dans son organisation économique et sociale. Et donc cette question-là demeure. C'est une question essentielle pour pouvoir développer à long terme la productivité et le fondement économique du pays, surtout devant la compétition internationale aggravée, en particulier de la Chine. Donc je pense qu'il y a certaines réussites réelles, mais l'ambition rooseveltienne, beaucoup plus vaste, du départ, n'est pas encore au rendez-vous. Reste à savoir ce qui se passera dans les 3 années à venir.
Il faut dire que cette présidence Biden est très compliquée, finalement, Suzanne Perry, avec ces élections. Bah, déjà, ça commence dans le chaos. Les élections de mi-mandat qui sont, pour chaque présidence, c'est la même chose. Mais là, particulièrement compliquée, avec, on l'a dit, une majorité très serrée. Et puis, les démocrates qui ne sont pas... qui ne montre pas une seule tête au Congrès pour soutenir le président Joe Biden. Quelques mots sur Joe Manchin, dont on a fait mention dans la première partie de l'émission, qui représente donc la Virginie occidentale, qui n'a donc pas voté. Enfin, c'est bloqué en partie à cause de lui. Et il y en a un deuxième dont je ne me souviens plus du nom, mais
Sinema.
Ok, alors... Quel est le jeu joué par ces deux
Alors, c'est très différent, parce qu'ils ont des intérêts. L'Arizona et la Virginie de l'Ouest n'ont rien à voir l'un avec l'autre, à part que leur législature, les congrès au niveau étatique de chaque État sont également bloqués. Et donc, M. Manchin est intéressant, parce qu'il vient d'un État qui était très dépendant du charbon. Et donc, il y a un taux de chômage toujours plus élevé que le taux des États-Unis plus généralement. D'abord. Deuxièmement, lui, et je n'ai jamais pensé que je dirais qu'il a raison, mais je vais le dire, il a raison sur le filibuster, parce que si on décide de contourner le filibuster tant que les démocrates auront la majorité, si... comme sous Trump, ils ont de nouveau la minorité d'ici 4 ans, on peut l'utiliser contre eux. C'est grâce au filibuster que les démocrates sous Trump sont arrivés à garder une partie de Obamacare.
Donc le nécessité de santé. D'avoir une vue plus à long terme.
Plus à long terme. Je ne suis pas sûre. Je trouve que il faut trouver d'autres moyens pour arriver à débattre les actes, les moutures au Congrès, aux États-Unis. Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est à la fois le sénateur Sinema et le sénateur Manchin, ils reçoivent énormément d'attention politique, ce qui veut dire que leur capacité de faire campagne et de lever les fonds pour leur prochaine campagne sont drôlement augmentées parce qu'ils se sont situés au cœur des manœuvres politiques du Parti démocrate. Donc, il y a également, et je pense que c'est très important dans chaque cas, un intérêt très personnel et à très court terme pour les prochaines élections. Et donc, ils bloquent pour cela.
Alors, oui, Philippe Gelub.
Oui, pour dire le moins, c'est un peu paradoxal que deux sénateurs sont dans une position où ils peuvent bloquer la totalité ou la quasi-totalité de l'agenda politique du président des États-Unis et du reste des élus démocrates. On est là dans une situation d'abus de leur part, et c'est un abus qui, effectivement, sert leurs intérêts personnels. C'est de l'opportunisme politique, mais c'est de l'opportunisme politique de la part de deux sénateurs qui, en fait, aujourd'hui, ne font pas partie de ce qui semble être le consensus central du parti sur les grands programmes que la présidence voulait et veut encore mettre en œuvre.
Alors, pour aller plus loin à propos de Joe Manchin, on dit aussi que si Joe Biden avait pris son téléphone pour être plus insistant auprès de lui et tenter de le convaincre, ce qu'il n'a pas fait. Mais voilà, et donc on a mis en avant la faiblesse de Joe Biden. Suzanne Perry, vous
donc,
froncez
le sourcil. Il utilise d'autres acteurs. Par exemple, la sénatrice Amy Klobuchar de Minnesota, c'est elle qui a fait le travail pour Biden. Pour aller vers Manchin, et pour avoir son soutien pour cet acte nouvel de la liberté de vote dont il est un des sponsors. Donc ça veut dire que lui, il contrôle les leviers d'un congrès qui est absolument divisé et très difficile à gérer. Et il utilise d'autres acteurs. où je suis d'accord, c'est avec M. Le Boucher sur le fait qu'il ne tweete pas, il n'est pas en contact régulier avec sa base.
Là, vous parlez de Joe Biden.
De Joe Biden, et ça lui coûte énormément au niveau de son soutien populaire. Mais au niveau d'utiliser les leviers de différents sénateurs pour faire avancer son agenda, là, par contre, il est assez rodé, je dirais.
Alors, avant de parler des élections de mi-mandat, donc en novembre prochain, il y a deux éléments sur lesquels je souhaiterais qu'on passe un petit instant. On ne l'a pas évoqué, Christophe Le Boucher, c'est la question de l'inflation qui est apparue aux États-Unis, comme d'ailleurs en Europe également. Et j'aurais voulu qu'on dise quelques mots sur la vice-présidente Kamala Harris, dont la personnalité semble avoir déçu. Christophe Le Boucher.
Oui, alors je voulais juste revenir d'abord sur quelque chose qui a été dit, parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à trop se focaliser sur les aspects, l'électoralisme de Manchin et Sinema. Et en fait, il faut voir que le parti démocrate, on parlait tout à l'heure de déconnexion entre les institutions, la représentativité et les Américains en général, mais il y a aussi une grave déconnexion entre l'agenda politique du Parti démocrate dans son ensemble, et on le voit aussi dans la Chambre des représentants, et les attentes des électeurs. Par exemple, sur la régulation des prix des médicaments, ça fait maintenant 20 ans que les démocrates font campagne là-dessus à chaque élection, et c'est une promesse de campagne qui a été abandonnée avec la bénédiction de Biden pendant les négociations qui ont fini par échouer de toute manière sur le Build Back Better. Et on voit que des personnalités, des sénateurs comme Manchin et Sinema, ils lèvent énormément d'argent auprès des entreprises qui ont un intérêt direct pour que cette législation échoue. Donc il y a vraiment un gros écart entre ce que veulent les électeurs démocrates et ce que mettent sur la table, y compris Biden et le centre du parti. Et du coup, ça provoque aussi ce désenchantement et cette baisse de popularité. Et sur le filibuster, il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que on disait tout à l'heure que les institutions font qu'il y a une majorité qui se prononce et elle n'obtient pratiquement rien. Si on garde le filibuster, ça veut dire que la majorité qui est au pouvoir ne peut pas mettre ses réformes en place. Donc ça, c'est un problème. Je pense que Manchin, il défend d'abord le filibuster parce que c'est le meilleur outil pour défendre les intérêts économiques qui financent ses campagnes et avec lesquels il est en contact permanent, plus que Biden, qui cependant a quand même beaucoup téléphoné et reçu Manchin à la Maison-Blanche. Mais le problème, pour moi, ce n'est pas forcément un problème de communication ici, c'est que Biden n'a pas de moyen de confronter Manchin, ou alors ne le veut pas. Donc c'est pour revenir un peu sur ce qu'on disait. Mais c'est vrai que le contexte n'aide pas Biden, en particulier l'inflation, qui est instrumentalisée en particulier par Manchin pour justifier son opposition aux nouvelles dépenses. Alors qu'en fait, on voit que l'inflation est un vrai problème. Clairement, c'est un des principales préoccupations des Américains en ce moment, qui érode le pouvoir d'achat, mais qui vient surtout des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des problèmes d'approvisionnement des différentes marchandises qui ont été déréglées par le Covid, plus que par les dépenses qui ont été faites, d'autant plus que les dépenses que Biden espère encore faire adopter sont des dépenses de long terme, donc ils n'auraient pas un impact direct, comme l'ont montré de nombreuses études que d'ailleurs Manchin cite à son avantage, pour d'autres raisons, pour justifier son opposition.
Alors, Christophe Le Boucher parlait de cette baisse des médicaments, du prix des médicaments qui n'a pas eu cours, contrairement aux promesses qui avaient été faites. Il y a eu d'autres renoncements. On peut très rapidement mentionner l'augmentation du salaire minimum qui ne s'est pas faite, Philippe Golub. Pas davantage, une taxation accrue des entreprises.
Et des individus, d'ailleurs.
Et des individus. Ça faisait partie vraiment des promesses de campagne de Joe Biden, et on parlera de Kamala Harris, 28% d'opinion favorable dans les sondages. Elle n'a pas réussi à trouver sa place aux côtés de Joe Biden, ni à l'épauler politiquement.
D'abord, sur la question de la justice fiscale. En théorie, le système fiscal américain est un système progressif, dans le sens que les plus hauts revenus sont plus taxés que les revenus plus bas. Mais en réalité, le fonctionnement du système fait que le système est régressif sur les très hauts revenus. Et donc, il y a eu une concentration de plus en plus forte des richesses, des patrimoines et des revenus, d'ailleurs, des patrimoines et des revenus dans le, comment le dire rapidement, dans les, le 1% et en réalité le 0,5% de la population depuis au moins 30 ans. Depuis Reagan, il y a un processus continu de concentration des richesses au sommet. Il y a une redistribution, en fait, une redistribution par la fiscalité, par le changement des politiques fiscales vers le haut au cours des 30 dernières années. Situation que Biden n'a pas réussi, que l'administration Biden n'a pas réussi à changer pour l'instant, du fait du blocage politique dont nous parlons et du fait qu'il il faudrait une majorité plus importante des démocrates dans les deux chambres du Congrès pour pouvoir mener une politique de refonte fiscale fondamentale. Puisqu'il existe au sein du Parti démocrate des résistances sur ce projet, parce qu'une partie du Parti démocrate, comme l'a dit Christophe, est alignée sur des intérêts économiques, sur les grands intérêts économiques, et bien sûr, côté du Parti républicain. C'est un des problèmes fondamentaux structurels du pays et donc de la politique américaine. Pour ce qui concerne Kamala Harris, Kamala Harris n'a pas trouvé une voie VOX, une voix indépendante, autonome de celle du président, capable de se projeter dans l'arène politique américaine. Elle n'a pas su le faire, elle n'a pas pu le faire. Il y a aussi le fait qu'on ne lui a pas donné les moyens de le faire non plus. Et ça va inévitablement créer un problème du point de vue de la préparation de la succession de Biden. Mmh. Biden n'est pas très jeune. Le prochain président candidat devra être choisi dans pas trop longtemps, c'est tous les 4 ans, n'est-ce pas? Donc dans un an et demi. Et le fait que Kamala Harris n'ait pas une présence importante pose problème aujourd'hui au sein de la succession de Biden dans le Parti démocrate.
Alors, Suzanne Perry, votre commentaire là-dessus, et on va peut-être parler aussi de la campagne électorale pour les élections de mi-mandat de novembre prochain, elle s'annonce difficile pour les démocrates.
Ça s'annonce difficile parce que les républicains sont mieux organisés sur le terrain que les démocrates pour le moment. Et j'imagine un scénario un peu à la Bill Clinton, où Biden perd les deux chambres en novembre 2022. Et ça serait à la fois une catastrophe pour les projets de loi, mais dans ce cas, ça va lui permettre de se focaliser sur la politique étrangère. Donc, ce qui était aussi le cas pour Clinton. En ce qui concerne Mme Harris, je trouve que Biden a servi comme interlocuteur au Congrès pour Obama. C'était son rôle, c'était lui qui faisait toujours ses appels téléphoniques.
Biden, vice-président de Barack Obama,
pardonnez-moi. Et donc, parce que le président Biden a déjà cette capacité, le rôle de Kamala Harris n'était pas défini bien avant. Elle était plus symbolique qu'utile. Et donc maintenant, on a essayé un petit peu un rôle à l'étranger, on a essayé un petit peu à droite et à gauche de lui trouver un rôle, mais Biden, il a déjà l'équipe pour le soutenir et il n'a pas une fonctionnalité au sein de son équipe pour le moment.
Christophe Leboucher, votre commentaire est en guise de conclusion de cette émission.
Sur Harris, il faut voir que c'est aussi une femme qui a du mal politiquement à s'imposer. Pendant les primaires démocrates, elle avait dû abandonner l'élection avant les premiers votes parce qu'elle était complètement à la traîne dans les sondages. Donc il y a peut-être aussi son manque de clarté sur ses positionnements. Et c'est un problème dans sa communication, dans sa capacité à mobiliser. Et ça, c'est clairement un sujet d'inquiétude pour la suite, pour les démocrates, pour la succession. Sur le court terme, les élections de mi-mandat s'annoncent difficiles, effectivement. Il y a d'abord un avantage structurel aux républicains du fait de la manière dont les institutions sont construites. Et ensuite, ces élections se jouent souvent à qui mobilise le plus fortement son électorat. Et quand il y a du mécontentement, c'est souvent les mécontents qui vont voter. Donc si l'inflation ne se résorbe pas et que le Covid continue de perturber l'économie, il est clair que les démocrates vont entamer ces élections avec une position très compliquée.
Des élections dont nous aurons l'occasion de reparler puisqu'elles se tiendront en novembre prochain. Merci Christophe Leboucher. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et co-auteur avec Clément Perrault des Illusions perdues de l'Amérique démocrate aux éditions Vendémiaire. Merci aussi à Suzanne Perry, professeure en sciences politiques et droit international à l'Université américaine de Paris, et Philippe Golu, professeur de relations internationales internationale, également à l'Université américaine de Paris. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Laurie Plisson. Nous poursuivrons demain ce tour d'horizon de la présidence Biden pour parler politique étrangère. À demain.